Nous allons voir dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 18. Le premier livre du Roi, chapitre 18. Je ne sais pas combien de personnes ça vous a déjà arrivé, je ne sais pas. En tout cas, ça m'est arrivé de monter dans le mauvais bus ou dans le mauvais train, c'est-à-dire le train qui n'amène pas la bonne direction. Au moins, le train que je ne voulais pas monter. On court, on monte dans un train ou un bus, on ne sait pas. Après, on rend compte que ce n'est pas le bon train, ce n'est pas le bon bus. Donc, le titre de ce message donné, quelque chose comme ça, êtes-vous sûr de monter dans le bon train ou dans le bon wagon qui amène à votre destination? Et on ne peut pas lire le chapitre entier, car il contient 46 versets, je crois. Nous allons voir un certain passage de ce texte que nous avons. Après une période de 3 ans à être caché loin de la vue du public, d'abord par le ruisseau de Kérit, puis à Zarephath, nous voyons Élie, le Tishbite, dans ce texte qui est devant nous ce matin. 3 ans et demi après le début de la sécheresse, le prophète a été chargé par Dieu de comparaître devant Achab, qui était humainement parlant une action extrêmement dangereuse. Dieu le demande à Élie d'aller rencontrer Achab, se manifester devant le roi Achab qui a une autorité terrible. Cependant, alors qu'il traversait les épreuves du ruisseau séché, du baril de farine vide et du fils mort, nous voyons le prophète Élie transformé en nom de Dieu pour accomplir des choses glorieuses. Et juste avant, on voit Élie dans un état où il devrait aller cacher pour sauver sa vie. Mais ici, nous voyons Élie, un homme de Dieu qui est utilisé pour la gloire de Dieu. La famine était si grave que le roi Achab lui-même et son intendant Abdias sont partis trouver de l'herbe pour nourrir les animaux. Alors qu'Abdias était à la recherche d'herbe, Élie l'a rencontré et lui ordonné d'informer Achab de l'endroit où se trouvait Élie. Car Achab et Jézabel avaient assassiné tous les prophètes du Seigneur et cherché à tuer Élie. De toute évidence, Abdias était réticent a obéi l'ordre d'Élie de peur de sa vie. Élie lui a promis qu'il ne déplacerait pas de cet endroit jusqu'à ce que Achab vienne à se rencontrer. Abdias, il avait peur que Achab demande à Achab de venir pour se rencontrer. Mais Abdias, il avait peur que si Achab il vient, si Élie va être enlevé par le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être tué par le roi Achab. Achab vient rencontrer Élie et l'accuse d'être le troubleur d'Israël, ne réalisant pas que l'homme de Dieu était l'un des meilleurs amis qu'Israël n'ait jamais eu. Ne craignant pas pour sa propre vie, Élie reproche au roi d'avoir mélangé l'adoration de Jéhovah avec l'adoration de Baal et le met au défi de réunir ses prophètes idolâtres pour un concours sur le mont Carmel afin de déterminer qui était le vrai Dieu. Je pense que nous connaissons tous ce passage, ce qui se passe sur le mont Carmel. Et donc, Élie, il fait un challenge ici, qu'il ramasse tout le peuple d'Israël devant Achab et ses prophètes, et 450 prophètes. Donc, s'adressant aux représentants d'Israël, Élie les a accusés d'une hésitation entre deux opinions. Ils devraient choisir soit le Seigneur, soit Baal. Le concours commence. Deux taureaux devraient être tués et posés sur le bois. Élie représenterait le Seigneur, tandis que le 450 prophète Achab représenterait Baal. Le Dieu qui a répondu par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. Ça, c'est le défi, ça, c'est le concours. Et maintenant, nous allons lire à partir du verset 26 de 1 Roi 18. Regardons ensemble le verset 26, nous allons lire jusqu'à 39. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal. Il, c'est le faux prophète de Baal, de 450 faux prophètes de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Il sautait devant l'autel qu'il avait fait. Verset 27, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, où il sait où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Pour les Indiens, nous avons connu, nous connaissons que les idolâtres, le peuple païen, ils abîment leur corps pour plaire, puisque leur Dieu, il peut écouter leurs supplications. Et j'en suis sûr que ça existe dans les autres religions païennes. Verset 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc, ce que le faux prophète de Baal, il devrait faire, ils ont tout fait, mais il n'y a pas eu de feu pour consommer leur offrande. Mais quand Élie, il commence, et il appelle tout le monde, tout le peuple d'Israël, de venir vers lui, ils l'approchèrent. Et c'est remarquable, dans le verset 30, la deuxième partie, « Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. » La première chose qu'il fait, il rétablit l'autel de Dieu. Se commence la vraie adoration. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau le fossé. Donc, avec les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël, il construit l'autel. Après, il demande de verser 12 cruches d'eau, puisque ça peut être complètement mouillé. Le verset 35, l'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi de l'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Israël, Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, une scène glorieuse qui se passe. L'homme de Dieu, il a fait un miracle devant le roi, devant ses faux prophètes et le peuple. Donc, le peuple a été obligé de reconnaître le Seigneur comme le vrai Dieu. Ils sont l'adorateurs de Jéhovah. Israël, il adorait déjà Dieu. Mais maintenant, ils étaient obligés de reconnaître le Seigneur comme le vrai Dieu. Puis ils l'ont obéi à l'ordre d'Élie de détruire les méchants prophètes de Baal. Ce n'est qu'après que le peuple a reconnu que Jéhovah était Dieu et a exécuté le prophète de Baal, la pluie tombe, pas avant. Rappelez-vous qu'il y avait 3 ans et demi de sécheresse, il n'a pas plu. Donc maintenant, Élie prie, il a plu. La confession de péché et l'obéissance à la parole de Dieu sont des étapes de la bénédiction. Il n'y a pas d'autre moyen. Premièrement, il faut des confessions de péché et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est un passage de la Bible qui est merveilleux et avec plein d'enseignements pour nous. Nous pouvons être frappés par la grande manifestation de la puissance de Dieu sur le mont Carmel. Le courage de cet homme de Dieu, Élie le Tishbite, qui a fait des choses pour Dieu qu'aucun autre aurait fait selon la parole de Dieu. Mais ce matin, nous allons voir un verset de ce chapitre 18, le verset 21. Regardons ensemble le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ?»« Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ?»« Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. »« Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Il y a un silence absolu. Il dit, « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. » Si Baal est Dieu, allez après lui. Il y a deux chemins. Il y a le choix, deux choix à faire. Et Élie, il est très clair. Il dit, il demande jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés. Ça, c'était un problème éternel de le peuple d'Israël. Il avait toujours le choix de choisir Dieu ou pas. Dieu n'a jamais forcé son peuple de l'aimer. Il a simplement dit que c'est votre devoir d'aimer Dieu. Mais il n'a jamais forcé, il a toujours montré les deux chemins. Vous avez le choix de faire. Dieu force aucun. En ce jour où la grande puissance de Dieu était manifestée sur ce mont Carmel, il y avait un grand rassemblement de personnes. Il y avait le roi Achab, ses serviteurs et ses faux prophètes, les prophètes de Baal, une large représentation du peuple d'Israël et l'homme de Dieu, Élie Tishbite. Donc il y a 3 catégories de gens ici. Un côté, il y avait le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. D'un autre côté, il y a le roi Achab, qui a détruit l'autel de Dieu, qui a fait des choses abominables dans le pays d'Israël, et ses faux prophètes, 450 faux prophètes, et d'autres 400 prophètes sont restés avec Jézabel, sa femme. Elle était beaucoup plus rusée qu'Akab. Et après, on voit le seul homme l'homme de Dieu, Élie le Tishbite. En effet, il y avait trois types de personnes. Si vous devez être un vrai chrétien, ce sera une vie solitaire. Souvent, quand vous voulez être un vrai chrétien, ce sera une vie solitaire. C'est une voie étroite. Elle devient plus en plus étroite. C'est une voie étroite et on ne peut pas anticiper le foule avec nous. Nous chantons souvent ce chant de Sadducéens. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Si le monde s'en va, qu'importe, moi j'irai. Donc, ce sera une vie solitaire. Donc, on voit Élie seul devant ce peuple de Dieu. De l'autre côté, il voit seul devant Achab qui aurait pu tuer Élie. Mais Élie, il n'a pas eu peur. Et c'est faux prophète. Regardons ensemble le verset qui précède ce verset 21, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne des Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Donc, on voit que tout le monde était rassemblé. Notez ici que Élie ne s'adressa ni au prophète de Baal ou à Achab et ses serviteurs. Il s'adressa au peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Élie, il n'a pas occupé de Achab, ni de faux prophète de Baal, ni de ses serviteurs, mais il parle au peuple de Dieu. Il parle seulement au peuple de Dieu. Il s'adresse au peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Combien de temps encore sauterez-vous de deux côtés? Dans la version Semeur, c'est écrit, combien de temps encore, sauterez-vous de deux côtés. Un jour ici, l'autre jour là-bas. Une fois ici, l'autre fois l'autre côté. Et une autre version, il dit ainsi, combien de temps hésiterez-vous, littéralement, boiterez-vous entre les deux côtés. Combien de temps hésiterez-vous, vous boiterez-vous. Nous sommes appelés pour marcher avec le Seigneur. Nous sommes appelés pour marcher pour le Seigneur. Et ici, on voit que le peuple d'Israël, il boite, il hésite de choisir. Il saute le côté, comme les politiciens de nos jours. Il change le parti facilement. Est-ce que le peuple de Dieu se conduit de la même manière? Quand nous entendons cette parole ce matin, ne pensez-vous pas que cette parole est aussi adressée au peuple de Dieu ici aujourd'hui? Les idolâtres et les gens du monde marchent dans la voie de l'injustice. Ils sont morts dans leur péché et iniquité. Ils n'ont même pas la pensée de marcher dans la voie de Dieu. Ils n'ont même pas la capacité d'obéir au commandement de Dieu. Ça, c'est Achab. Son armée, ses serviteurs, ses faux prophètes. Et les gens du monde, ils ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. Ils n'entendent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Mais le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, ils peuvent comprendre quand Dieu parle. Ils peuvent comprendre. Donc, la parole de Dieu est adressée au peuple de Dieu, premièrement. Mais vous qui avez professer d'être un enfant de Dieu, un disciple de Christ, un chrétien, comment marchez-vous? Marchez-vous de deux côtés? Nous avons une façon de marcher le dimanche et des autres jours de la semaine, nous avons une autre façon de marcher. Je vais vous lire ce que Jésus a dit au peuple d'Israël tout au début de leur histoire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu d'Amoréen dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Depuis le départ, Dieu était très clair quand il a donné les 10 commandements. Il s'est déclaré lui-même comme un Dieu jaloux. Il ne peut pas supporter que ses enfants, il peut adorer les autres dieux. Il a donné les premiers 4 commandements par rapport à ça. Et dans ce verset que nous avons lu, la parole de Jésus est « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Donc, dans notre service pour Dieu, ce n'est pas simplement d'être un enfant de Dieu, ce n'est pas simplement d'être un chrétien, ce n'est pas simplement d'être un disciple, mais de servir avec intégrité et fidélité. Servir avec intégrité et fidélité. Dieu est fidèle avec nous. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais nous abandonné. Tous les matins, il est le même Dieu. Lui, il est fidèle. Mais combien de fois nous avons changé? Ça suffit que nous parlons avec quelqu'un du monde pendant une heure. Et nous commençons à douter les choses, nous commençons à être influencés par la pensée du monde, par la philosophie du monde. Ça suffit de regarder la télévision pendant quelques temps. On a l'influence du monde dans notre cœur. Et faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et d'autre côté de la fleuve et en Égypte. Et quand on parle de côté, l'autre côté, c'est notre vie passée. Nous avons quitté l'Égypte pour aller servir Dieu, l'Éternel Dieu. Et est-ce que nous avons cette pensée de servir le Dieu de nos pères, les anciennes habitudes de famille, de notre culture, de notre pays? Mais nous devrions vérifier en nous-mêmes, est-ce que nous avons encore cette influence de notre passé, ce que nous avons quitté, ce que nous avons fait auparavant dans notre vie passée? Et ici, Josué demande au peuple de servir le Seigneur avec intégrité et fidélité. Il n'y a pas d'autre manière de vivre et servir le Seigneur. Il y a une seule manière de vivre. Il n'y a pas une autre manière de vivre pour vivre et servir le Seigneur. Il n'est absolument pas question d'être le peuple de Dieu. Être et servir. Si nous sommes simplement existants en tant que peuple de Dieu, certainement il y a un problème. Si nous existons, c'est pour servir Dieu et servir avec intégrité et fidélité. Pendant ce temps d'Akab et Jézabel, le peuple d'Israël n'avait pas entièrement abandonné le Seigneur. Il adorait le Dieu d'Israël et Baal à côté. Le peuple d'Israël ne s'est jamais abandonné le Seigneur, Jéhovah. Il avait Jéhovah, il adorait Jéhovah. Après, il adorait les autres dieux qui étaient introduits par des autres. L'influence des autres pays, les influences des autres prophètes qui amènent des pensées païennes. Et donc, on a Dieu, et à côté, on a autre chose que nous refuserons certainement ce matin d'accepter qu'on a d'autres choses que nous on adore. Il y a d'autres choses qu'on met en égalité avec Dieu. Il y a d'autres choses qu'on donne autant d'importance comme Dieu. Qu'il y a d'autres choses que nous ne sommes pas prêts à balayer ou refuser complètement. Donc, le peuple n'avait pas entièrement abandonné le Seigneur. Il adorait le Dieu d'Israël et Baal à côté. C'est la prostitution spirituelle. C'est ainsi que le Seigneur le voit. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Si nous sommes en train d'adorer autre chose dans notre vie. Vous voulez sortir de Sodome pour éviter la destruction et vous avez mal à quitter la ville, n'est-ce pas? Comme la femme de Lot. Vous ne pouvez pas avancer en suivant Dieu et vos yeux fixés vers Sodome. Le statut de sel aux portes de Sodome est un témoin pour nous, chers croyants. On veut avancer avec Dieu, on veut sortir de la ville de Sodome qui est en train d'être détruite, mais on a le visage tourné vers Sodome. Croire aux paroles de Satan et vouloir rester dans le jardin d'Éden, ce n'est pas possible. Ce n'est possible. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas, au sein d'Éden ou à l'extérieur. On ne peut pas être quelque part au milieu. Oui, le monde accepte la cohabitation pour vous avaler entièrement plus tard. Dans le monde, c'est possible, la cohabitation. Non, non, non. Tu restes comme tu restes un chrétien, mais viens avec nous. On va s'amuser un peu. Le monde, il nous invite tout le temps. Le monde, il peut accepter la cohabitation. Et c'est simplement pour nous avaler entièrement plus tard. Il vous séduira avec ses délices. Il vous dira qu'être chrétien et aimé avec le monde est une chose possible. Être religieux et dans le péché est aussi possible. Vivre dans la lumière et dans la ténèbre est aussi possible. Non. La première chose que Dieu a fait dans le récit de la création, Dieu sépara la lumière. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Une vie chrétienne entre les deux, ce n'est pas possible. Si nous sommes les enfants de lumière, comment nous pouvons cohabiter avec les choses de la ténèbre, du ténèbre? Regardez ce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse 3:16, vous connaissez bien. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid, ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur parle de l'Église de Laodicée. Les chrétiens ni chauds ni froids sont ceux qui s'associent dans l'Église et croient au message de l'Évangile. Ça existe. Les chrétiens ni chauds ni froids qui s'associent avec une Église et ils croient au message de l'Évangile, mais n'ont pas donné leur vie entièrement à Jésus-Christ, le Sauveur. Mais tout à l'heure, nous avons chanté ce chant que rendre tout, donner tout notre vie à notre Dieu, ils ne sont pas vraiment engagés de manière significative dans sa mission. Et nous sommes là pour le servir. C'est ce genre de chrétien que Jésus décrit dans les trois paraboles de Matthieu 25. Nous n'aurons pas le temps pour lire, mais vous connaissez ces trois paraboles. Vous pouvez lire à la maison, Matthieu 25. C'est la parole de vierges, de 10 vierges. Les vierges se considèrent comme des amies de l'époux. C'est pourquoi elles étaient là, dans le mariage. Les vierges se considèrent comme les amies de l'époux, mais elles ne vivent pas d'une manière qui anticipe son retour. Qu'ils ne vivaient pas d'une manière qui anticipait son retour. Aujourd'hui, nous avons beaucoup chanté, nous avons parlé de la retour de notre cher Sauveur. Elles ne pensent qu'à profiter de la vie présente, s'amuser. Elles ne pensent qu'à profiter de la vie présente. Elles ne sont pas fidèles dans leur mission. Et donc, serions comme ces vierges qui participaient dans le mariage, mais elles n'étaient pas prêtes pour l'époux, qui n'étaient pas prêtes, n'est pas prêtes pour l'événement de l'époux. Et deuxièmement, dans le même chapitre, nous voyons un autre parabole de méchants serviteurs. Le méchant serviteur se considère comme l'employé du maître, mais il n'a jamais offert ses talents sans réserve pour le royaume de Dieu. C'est un serviteur, au moins il professait d'être un serviteur, mais il se considère comme l'employé du maître, mais il n'a jamais offert ses talents sans réserve pour le royaume de Dieu. Et troisièmement, nous voyons le brebis et le bouc. Le bouc, à sa gauche, sont surpris d'être rejetés par Jésus, qu'ils pensaient servir fidèlement. Mais quand ils agissaient de vivre selon la volonté de Dieu, ils n'étaient pas engagés du tout. Voici ce qui donne à réfléchir à ces paraboles. Il n'y a pas d'entre les deux. Il n'y a pas d'entre les deux. Vous êtes soit engagés dans la mission, vivant entièrement pour Jésus et en utilisant vos ressources pour son peuple et son royaume, où vous n'êtes pas. Il n'y a pas d'entre les deux. Il n'y a pas d'entre les deux. Vous êtes soit une brebis, soit un bouc. Et cela met un chrétien ni chaud ni froid dans une position très précaire. On ne peut pas être un chrétien. Moi, je suis un chrétien, mais je ne veux pas me déranger. Je viendrai à l'église tous les dimanches. Je lirai la Bible tous les jours. Je prie de mon côté. Et on ne me demande pas plus. Un chrétien ni chaud, ni froid. Un des détails dans ces paraboles qui m'a toujours saisi est comment, dans la parabole des talents, Jésus a appelé celui qui a enterré son talent méchant serviteur. Il l'appelle méchant serviteur. C'est un mot dur pour quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Méchant serviteur. Quelle chose méchante avait-il fait? Il ne l'a pas volé, vous dépensez pour des prostituées et de la drogue. Il a rendu tout ce qu'il a reçu. Mais simplement, il n'a rien fait. Il n'a pas fait de mal, mais il n'a pas fait de bien non plus. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous avons une mission. Nous sommes appelés pour le servir. Nous sommes appelés pour le servir fidèlement et avec intégrité. L'apôtre Jacques il dit, les personnes qui sont ni à gauche, ni à droite, ni froid, ni chaud. Jacques 1:6, nous lisons, « Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est de cette catégorie de faire quelque chose pour le Seigneur. On ne peut pas confier une tâche. On ne peut pas confier une mission à une telle personne. La foi est nécessaire pour vivre la vie chrétienne. Ce n'est possible de vivre la vie chrétienne sans la foi en Dieu. Mais le juste vivra par sa foi, Habakkuk 2:4. Nous avons besoin de la foi pour vivre notre vie chrétienne. Mais en même temps, nous savons que nous sommes assaillis par des doutes. Ça, c'est une chose sûre. Nous sommes souvent amenés à douter aussi. Et tout le monde a eu ce problème. Tous les grands hommes dans la Bible ont eu ce problème. La première chose que Satan il a fait, il a semé le doute dans le cœur d'Adam et Ève. Est-ce que véritablement le Seigneur il a dit ainsi? Et le malin, il continue à faire son travail de cette manière. Les grands hommes de Dieu ont tous souffert des moments de doute dans leur vie. Nous connaissons le doute du disciple Thomas, le doute que Thomas a éprouvé face à la perte déchirante de celui qu'il aimait, n'est pas différent de notre face à une perte massive. Désespoir, chagrin et chagrin excessif. Mais bien que Thomas ait effectivement douté de l'apparence de résurrection du Seigneur, une fois qu'il a vu le Christ se ressusciter, il a proclamé dans sa foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y avait un moment de doute, mais tout de suite après, il a proclamé dans la foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus l'a félicité pour sa foi, bien que cette foi ait été basée sur la vue. Et pour encourager le futur chrétien, Jésus poursuit en disant, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le remède au doute dépend dans une certaine mesure de la chose mise en doute. Cependant, le vrai problème n'est pas dans l'objet mis en doute, mais dans le sujet qui doute. Le vrai problème n'est pas dans l'objet mis en doute, mais dans le sujet qui doute. Par conséquent, les mesures suivantes doivent être prises par un chrétien qui doute. Premièrement, j'ai cinq points. Confesser le doute comme un péché de Dieu, péché à Dieu. Si le moment où nous sommes assaillis par le doute, nous devrions tout de suite confesser à Dieu que c'est un péché. C'est comme un péché, je devrais confesser le doute. Le doute est fondamentalement une incrédulité en Dieu et sa parole est donc un péché. Le doute est fondamentalement une incrédulité en Dieu et sa parole est donc un péché. Et quelque chose commis contre Dieu, c'est un péché. Donc l'incrédulité, c'est un péché. Le doute, c'est un péché. Regardez ce que nous trouvons à Hébreux 11, 6, je vais lire. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Pardon, c'est Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et en Hébreux 11, 6, nous lisons, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu a promis d'entendre le plus sombre de nos incrédulités. On peut être incrédule dans des moments difficiles, mais nous devrions confesser notre doute comme un péché à Dieu. Deuxièmement, étudier la preuve de la foi chrétienne. Les chrétiens n'ont rien à craindre en examinant les faits de n'importe quelle source de leur connaissance. La plus grande preuve de la validité du christianisme, la résurrection du Christ, est attestée par les nombreuses preuves. Parmi ceux-ci se trouve le tombeau vide, les apparitions post-résurrection et les disciples transformés. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. 1 Corinthiens 15, 17. Donc, l'épreuve de notre foi, ça basé sur quoi? Nous devrions nous répéter nous-mêmes, nous devrions nous enseigner nous-mêmes. L'épreuve de notre foi, c'est basé sur la résurrection de Christ. C'est la plus grande preuve que Dieu peut donner aux hommes. Que Christ, il est vraiment ressuscité, il y a le tombeau vide, il y a des témoins oculaires, il y a plusieurs personnes, plus de 500 personnes sont vues plusieurs fois pendant 40 jours. Et et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et dans votre doute. Et troisièmement, assurez-vous de votre salut. Paul exhorte les chrétiens pour s'examiner eux-mêmes, pour s'assurer qu'ils sont chrétiens. Et êtes-vous sûr d'être sauvé? Si vous n'avez pas cette assurance d'être sauvé, vous devrez procurer cette assurance aujourd'hui. Et 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes ici parce que vous êtes là par des habitudes, parce que vos parents ils sont là, vous êtes là. Si vous êtes là ce matin parce que la religion, entre guillemets, évangélique, c'est la religion de vos parents, vos grands-parents. Non, ça ne servira de rien. Si vous êtes là pour plaire quelqu'un ou plaire vous-même, c'est perdu. Donc, l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Tout comme l'auteur de l'Hébreu, Hébreu 6, chapitre 6, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et des jugements éternels. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc le salut du péché est simplement la confiance en Jésus-Christ. À moins que vous ne soyez assurés de votre salut, vous serez troublés par l'énorme doute. Et quatrièmement, nous devrions étudier fidèlement la parole de Dieu. Nous devrions étudier fidèlement la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Par l'étude et l'application de la Bible, notre foi est renforcée et mûrie. Plus particulièrement, nous devons maîtriser la doctrine d'enseignement de base de la Bible, si nous voulons être des chrétiens stables et matures. On peut être grandi, on peut être dans cette église pendant plusieurs années. Si quelqu'un vous pose des questions par rapport à des choses de base, si vous n'arrivez pas à répondre, C'est dommage, n'est-ce pas? Et nous devrions étudier la parole de Dieu pour être fortifiés dans notre foi. De ne pas avoir de doute, nous devrions étudier la parole de Dieu. Et Timothée, Paul dit à Timothée, dans son épître à Timothée, 1 Timothée 4, 13 et 16, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, préserve, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et te sauveras ceux qui t'écoutent. » Ça, c'est quelque chose utile pour nous tous. Nous avons besoin d'être enseignés et nous avons besoin d'enseigner des autres aussi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et encore, il écrit dans l'épître de Tite, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer et toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Est-ce que nous connaissons toute la doctrine de notre Dieu, toute la doctrine qui concerne notre Dieu, toute la doctrine qui concerne le péché, la doctrine qui la doctrine concernant le doute et la foi. Et cinquièmement, c'est la vie de prière. La façon la plus sûre de faire face aux doutes quand ils viennent est d'avoir une longue histoire de la prière. Et c'est simplement dans la prière que nous savons, nous connaissons combien de fois Dieu nous a répondu, combien de fois Dieu nous a parlé, combien de fois Dieu nous a éclairé de nos doutes. Plus une personne voit Dieu répondre à la prière, plus la foi de cette personne devient forte, tandis que le doute devient moindre. Donc, gardons ces quatre choses. Il faut premièrement confesser le doute comme un péché à Dieu. Deuxièmement, étudier la preuve de la foi chrétienne. Troisièmement, assurer de notre salut. Et quatrièmement, étudier fidèlement la parole de Dieu. Et cinquièmement, Il faut prier et garder cette relation intime avec notre Dieu. Même Élie, il a eu des moments de doute. Et là, on voit Élie sur le mont Carmel. Mais à un autre endroit, où il s'est caché dans une caverne. Il s'est caché, il doutait de tout. Et le plus en plus qu'on peut avoir les doutes, nous devenons instables. On n'arrive pas à marcher droit. On marche de deux côtés. On marche à droite, on marche à gauche. On perd notre intégrité. On n'est plus fidèle pour suivre le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous aide à garder nos yeux fixés sur lui. Et il nous pose cette question, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Mais si nous sommes convaincus que Dieu est Dieu, et le Dieu que nous servons est le Dieu véritable, pourquoi douter? Pourquoi ne pas marcher avec lui? Pourquoi nous ne servons pas ce Dieu? Si Dieu c'est Dieu, nous devrions le servir avec tout notre cœur, toute notre âme et toute notre puissance. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce passage que tu as laissé dans ta parole. Seigneur, c'est pour notre instruction, c'est pour notre correction. Seigneur, cette parole est toujours vraie, que Seigneur, nous aussi, nous vacillons parfois. Nous confessons notre faiblesse de notre foi. Seigneur, tu travailles dans nos cœurs, puisque notre foi peut augmenter. Augmente notre foi, Seigneur, puisqu'on peut te croire en tout moment de notre vie. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe nos positions, mais Seigneur, aide-nous à prendre position pour toi dans ce monde. Seigneur, nous sommes des vases d'argile qui portent ce précieux message, Seigneur, ce trésor en nous. Seigneur, aide-nous à comporter comme tes enfants. Aide-nous à comporter comme tes serviteurs, comme tes disciples, comme des chrétiens. Seigneur, que ton nom soit glorifié par nos vies, pas seulement par les choses que nous professons, mais aussi par les coins de notre vie. Que Seigneur, toute gloire revienne à toi. Nous demandons toutes ces choses dans le puissant nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen.